Tout de suite, je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Claude Dédon afin qu'il nous présente ce que sont les biens communs informationnels et qu'il nous indique certains de leurs enjeux. Jean-Claude, à toi.
Merci, merci beaucoup et je suis absolument ravi d'être ici. Ça me fait très très plaisir d'intervenir dans cette discussion. D'avance, je vais vous demander de m'excuser parce que vers 16h, il va falloir que je m'éclipse pour un autre voyage. Mais je serai avec vous jusqu'à 16h. Et je ne peux pas m'empêcher de faire quand même une petite remarque sur la géométrie de cette salle. Ça me rappelle un peu un réfectoire de monastère où je devrais peut-être prononcer quelques prières pendant que sagement vous pourriez consommer un repas frugal. Cela dit, je vais essayer d'entrer dans le débat. Je ne sais pas si je vais vous donner une définition des biens communs informationnels. Je crois qu'on va plutôt procéder par une série de petites touches et d'approches qui vont essayer de cerner l'ensemble ou une partie du moins des problèmes qui me semblent les plus importants en relation avec cette question. Et d'emblée, je voudrais commencer par tout de suite mettre en place ce qui me semble être l'enjeu essentiel de ces biens communs informationnels par rapport à des biens communs plus classiques, les fameux commons par exemple, donc des villes et agglomérations anglaises du XVIe et XVIIe siècle, et puis tout ce qu'on a pu conserver depuis comme espace commun ou public et ouvert à tout le monde depuis cette époque-là. La distinction essentielle que je voudrais immédiatement mettre de l'avant, c'est cette notion de ce qu'on appelle souvent la tragedy of commons en anglais, la tragédie des communs, qui consiste à dire que si vous ne vous fiez pas au marché, il y a immédiatement un problème d'allocation de ressources qui se pose, immédiatement les gens vont profiter et abuser de ces biens communs, et vous allez aboutir nécessairement à une destruction de ces biens communs, et que donc par conséquent, à la limite, dans une bonne logique économique libérale, la seule façon de bien gérer tous les biens, c'est justement de ne pas les mettre comme biens communs. Donc on est là en face d'une espèce de défi fondamental qui effectivement touche par exemple des forêts ou des domaines comme ça, à moins de les gérer de manière extrêmement rigoureuse et en fait de réduire l'accès général, public et libre à ces biens communs dans le cas de biens matériels. Mais dans le cas des biens informationnels, la beauté de la chose, c'est qu'évidemment, chaque fois que je consomme un bien informationnel, je ne le détruis pas. Loin de là, je le renforce, j'en assure la multiplication, j'en assure une vie plus profonde et plus intense, et la tragédie immédiatement des communs devient quelque chose de tout à fait difficile à imaginer dans ce contexte particulier. La tragédie des communs, donc, d'emblée, ne devrait pas être un enjeu pour nous, elle devrait être au contraire la manière de démarquer ce domaine du bien informationnel par rapport au bien matériel. Il y a une deuxième dimension qui me semble importante à apporter tout de suite, c'est que un bien informationnel n'est peut-être pas qu'un bien informationnel. En ce sens que l'information, je vais l'utiliser ici de la manière suivante, je vais la définir comme la circulation d'un point émetteur à un point récepteur, point final. Or, il me semble qu'un vrai bien informationnel, lorsqu'il est traité de cette manière-là, même s'il est diffusé de manière qui apparaît d'accès libre, par exemple la radio ou la télévision, de ce point de vue-là, en fait ne correspond qu'à une partie, et une petite partie, de la non-matérialité justement de ce type de bien. Et en fait, me semble-t-il que pour bien comprendre les biens informationnels, il faut non seulement les faire entrer dans un schéma de diffusion, mais aussi dans des schémas de stockage, d'accès, et surtout, je dirais, de réélaboration et de communication par-dessus le bien informationnel au sens premier du terme que j'ai essayé de mettre en place ici. Donc, dès que l'on parle d'un bien informationnel, la question qu'il faut que l'on se pose, c'est est-ce que ce bien informationnel est susceptible d'être ouvert à une réélaboration, à un retravail, à une façon de le transformer qui puisse servir justement le bien commun. La leçon fondamentale qui est derrière cette réflexion, en fait, me semble venir de la pratique scientifique telle qu'elle s'est élaborée dès le XVIIe siècle au moins, mais prenons ça comme une date de démarrage, c'est-à-dire à l'époque de l'institutionnalisation de modes de communication de la science par des moyens relativement structurés et technologiquement garantis. Je veux parler de l'imprimerie en l'occurrence, la création des revues scientifiques et le début d'un système d'échange entre scientifiques. Pourquoi est-ce que je prends ça comme modèle de démarrage? Très simplement parce que l'idée d'un scientifique, lorsqu'il publie dans cette espèce de nouvelle économie du savoir qui se met en place au XVIIe siècle, l'idée du scientifique, c'est non pas de posséder le résultat de ses recherches, car il sait que s'il possède le résultat de ses recherches et simplement s'assoit dessus, ça ne va pas donner grand-chose de très intéressant dans un contexte qui se définissait à l'époque comme une république des lettres. Ce qu'il cherche au contraire, c'est assurer une sorte de statut, une visibilité, une autorité à l'intérieur de ce système d'échange symbolique. Et l'important pour l'auteur de type scientifique, donc dans une situation de bien informationnel commun, c'est non pas de gêner, empêcher, freiner la circulation de ces biens informationnels, c'est au contraire la volonté d'en maximiser la circulation, d'en maximiser la rapidité de la circulation, à condition que l'on sache bien que ça vient de quelqu'un, d'un auteur, en fait, d'un nom, quelqu'un qui se nomme et quelqu'un dont le nom reste attaché à ce document qui commence à circuler. En même temps, ce document qui commence à circuler s'ouvre de façon extrêmement ouverte à la possibilité d'une critique, d'une réélaboration, d'une remise en cause, ou au contraire peut jouer le rôle peut-être plus valorisant d'un texte qui va devenir la base, la fondation de toute une série de développements au point de vue des connaissances, au point de vue des théories, au point de vue des faits, même si c'est un document qui est surtout de type empirique. Donc vous voyez que la science donne dès le XVIIe siècle, à partir du début de la structuration de la communication scientifique par les publications scientifiques, une première idée d'un ce que pourrait être un bien commun informationnel. Il y a une sorte de propriété qui s'attache à ces documents, mais cette propriété ne joue pas sur la question de l'accès, sur la question de la circulation, sur la question du stockage. Au contraire, on cherche à optimiser ces choses-là. Ce qui nous mène immédiatement à un point qui est important et que, puisqu'on va parler de logiciels libres, je crois, cet après-midi, entre autres choses, conduit à une remarque importante, c'est que pour arriver à ce genre de résultat que je vais un peu canoniser sous le mode communication scientifique, eh bien, on n'est pas forcé de passer par une sorte de possession commune de ces choses, de ces documents. Ce que l'on veut, ce que l'on recherche, c'est beaucoup plus un accès aussi libre que possible, une circulation aussi libre que possible, un stockage aussi assuré que possible, une mémoire commune aussi claire que possible de l'ensemble de ces documents pour créer ce nouveau contexte de bien commun informationnel. Donc on peut arriver à des situations que l'on connaît bien dans le logiciel libre, de logiciels qui sont parfaitement la propriété intellectuelle de quelqu'un. Par exemple, on assigne à Linus Torvalds la propriété intellectuelle de Linux, et pourtant ce logiciel circule très très librement grâce à une licence particulière. On voit bien que c'est un mot de licence qui intervient et non pas simplement un bien commun général, une licence particulière qui renverse complètement les règles classiques de l'économie libérale qui s'assoit sur une propriété aux effets restrictifs, aux effets négatifs, aux effets limitatifs. Donc il me semble qu'il y a là une première mise en place d'un contexte, d'une base de remarques sur les biens communs informationnels qui est important. Je résume encore une fois qu'il faut tout de suite remettre l'informationnel à l'intérieur d'un cadre un peu plus large qui inclut le communicationnel, c'est-à-dire l'échange, le partage et la réélaboration à travers ces processus qui, entre parenthèses, ne sont pas forcément des processus de type harmonieux. Il suffit de regarder d'à peu près les pratiques scientifiques pour savoir que c'est un univers qui peut être extraordinairement concurrentiel, c'est un univers qui peut être extrêmement conflictuel, et pourtant les règles de circulation et de transformation de ces documents demeurent complètement libres et ouvertes. Donc il faut, je crois, bien regarder ces choses-là de façon à ne pas tomber dans le piège qui consisterait à simplement faire une transposition mécanique des qualités que l'on attribue généralement à des biens matériels sur ces biens dits immatériels, c'est-à-dire ces biens qui sont de forme, je dirais, symbolique. La deuxième chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est que les biens informationnels et communicationnels sont en fait largement déterminés aussi par le contexte technologique dans lequel ils fonctionnent. La maîtrise de l'écriture, qui est d'abord un codage, et on pourrait même dire dans les premières années de l'écriture, parlons des Akkadiens ou des Sumériens, mais parlons au moins des Égyptiens, la maîtrise de la langue écrite était en fait un plus technique qui était complètement monopolisé par une toute petite classe de scribes très proche du pouvoir le plus suprême des royaumes égyptiens. Lorsque l'on parle donc de ces biens, il faut toujours bien penser au contexte technologique dans lequel on se situe, et là, à cet égard-là, nous sommes dans une période, je dirais, quand même relativement exceptionnel, parce que ce n'est pas une période de stabilité, une période, un plateau si vous voulez, une sorte d'expansion d'un modèle qui a été largement exploré déjà et qui simplement se déploie. La situation actuelle me paraît correspondre beaucoup plus à une situation de transition et de transition intense. Ce qui veut dire qu'il faut jamais confondre ce que nous observons sur le plan empirique avec, si vous voulez, des états. Des sortes de structures qui seraient inamovibles, qui seraient complètement stables et qui seraient un peu déterminantes pour à jamais pour l'avenir. Au contraire, il est intéressant, je crois, de regarder de près la situation de transition antérieure pour voir, pour analyser, pour comprendre un peu mieux comment certaines questions se soulèvent immanquablement au détour de ce que je vais rebaptiser une transition. Dans le cas de l'imprimerie, une façon probablement très brutale et trop brutale, mais enfin, puisque nous sommes dans un temps limité, je vais poser un peu les thèses de manière avec des gros traits, ne serait-ce que pour mieux stimuler le débat entre nous tous, enfin entre vous tous, puisque je serai pas là à la fin. C'est une façon lâche d'éviter les problèmes. Ce serait de dire que avant l'imprimerie, le système, en particulier en Europe occidentale, en tout cas, le système de l'écriture était complètement bien verrouillé par, en gros, deux types d'institutions. D'un côté, l'institution religieuse, l'Église, qui avait effectivement tout un système de production, de reproduction, de diffusion des manuscrits que nous connaissons fort bien. L'abbaye ou le monastère cistercien n'est rien d'autre qu'une concentration verticale de moyens pour permettre de créer ce surplus d'énergie et de capacité, je dirais, qui engendre les manuscrits de la tradition religieuse d'un côté et du canon antique qui avait été récupéré par l'Église pour ses besoins, c'est-à-dire en fait un canon extrêmement filtré. Je ne vais pas faire tout un cours sur l'humanisme au passage pour montrer comment ça s'est réouvert. Enfin, ça, tout le monde connaît ça. Et de l'autre côté, c'était évidemment les États naissants, en tout cas les pouvoirs politiques croissants, qui monopolisaient à travers un personnel largement de type légal le reste de l'écriture. Ce qui restait en dehors de ça était vraiment extrêmement minuscule et extrêmement marginal. C'est pas quelques chansons de gestes ou quelques histoires d'amour qui permettaient de beaucoup changer la situation, et peut-être qu'on n'en parle encore que précisément parce qu'elle constituait l'envers un peu libre d'une situation extraordinairement bien verrouillée. Le passage à l'imprimerie, je pense que le problème essentiel du passage à l'imprimerie a été un problème de contrôle. Parce que, brutalement, les gens qui étaient capables de maîtriser l'imprimerie, les gens qui étaient capables de produire des textes avec cette nouvelle technologie, sortaient de milieux de professionnels et de classes de la société qui n'étaient plus exactement les mêmes que ceux qui venaient auparavant dans le monde du manuscrit. L'université, par exemple, se trouve largement mise sur la touche. très rapidement. Les monastères, évidemment, et autres que scriptoria, se trouvent également rapidement mis sur la touche. Alors, le problème qui se pose, c'est précisément cette question de contrôle. Question de contrôle qui, d'ailleurs, très rapidement, reprend ces marques, ces balises pour restaurer ce contrôle. Donc on voit que dans l'espèce de transition qui se passe vers l'imprimerie, il y a tout un mouvement qui peut ouvrir, laisser place à de nouvelles libertés, mais en même temps il y a tout un mouvement qui essaye de se replacer pour essayer de recirconscrire, rebaliser ce système nouveau technologique. Alors, prenons quelques exemples très simples. Simplement, pour imprimer, il faut, vous le savez, des fontes qui disent bien ce qu'elles veulent dire, c'est-à-dire des métaux mous qui sont eux-mêmes, évidemment, moulés à l'intérieur d'une matrice qui elle-même est faite d'un métal un petit peu plus dur, matrice qui elle-même est marquée par un poinçon qui va créer, par exemple, la lettre au fond du moule de façon à créer ce chose-là. Le poinçon final, lui, il est fait en acier extrêmement dur. La chose que l'on oublie la plupart du temps, c'est que l'acier extrêmement dur au 15e siècle et au début du 16e siècle, c'est une high-tech. C'est une high-tech extrêmement rare, et c'est une high-tech qui a en fait deux dérivés très importants pour le pouvoir politique de l'époque. C'est la high-tech évidemment des armes blanches, hein, donc c'est quand même important pour le militaire, et c'est la high-tech des monnaies, puisque c'est avec les mêmes aciers durs que l'on peut faire graver et estampiller des monnaies. Lorsque l'on voit Garamond filer de France et s'installer en Italie avec tout son savoir-faire de gravure qu'il avait à la monnaie française, on découvre immédiatement comment ce genre de personnel qui passait d'un état à un autre ou d'un pouvoir politique à un autre remettait en cause ou affaiblissait ou renforçait, selon le cas, la capacité militaire et de contrôle monétaire d'un pays, et tout à coup cela aussi jouait avec la question de la circulation des documents. Si vous allez au musée de l'imprimerie à Lyon, vous y verrez un petit instrument extrêmement intéressant qui est une presse miniature qui avait été en fait mise au point par les protestants. Chose intéressante aussi, cette zone de liberté qui s'ouvrait par la technologie, avait été appropriée par un certain nombre d'individus. On connaît bien le rôle de l'imprimerie dans la diffusion des pamphlets de Luther. Eh bien, les protestants qui, évidemment, se servaient de ce nouvel instrument avec une maestria, une virtuosité que les catholiques étaient loin d'imiter, tout à coup, évidemment, devenaient extrêmement dangereux par ce fait même. D'où la nécessité de contrôler, réprimer, décider comment organiser l'imprimerie. Et la réplique à ça, c'est évidemment une contre-technologie qui est la miniaturisation de certaines presses de façon à pouvoir les cacher plus aisément et les faire marcher dans des espaces plus discrets et plus petits. Bref, on a ici, là, je dirais, tout un ensemble de remarques que j'esquisse extrêmement vite, mais je crois que si maintenant nous passons à notre époque, nous regardons la numérisation, on voit le même double mouvement en train de s'accomplir sous nos yeux actuellement, précisément à cause de cette période que j'appelle de transition. D'un côté, on a avec la numérisation cette découverte d'une liberté d'accès, de transmission, de production de documents de toutes sortes, et beaucoup de gens ne se font pas faute de profiter et d'utiliser cela à fond, parfois dans des termes que l'on appellerait légaux, parfois dans des termes que l'on pourrait appeler illégaux, parfois dans des termes ambigus. Toute la question justement de la notion de propriété économique, alors dans ce cas-là, de documents numériques qui justement se trouvent tout à coup envoyés à l'autre bout de la planète, téléchargés par les jeunes ou pas si jeunes, et ensuite utilisés, chansons, films, n'importe quoi, disons correspondrait à cet espace de liberté qui s'ouvre par la technologie même, indépendamment du cadre des lois, indépendamment des cadres politiques. Et inversement, on voit évidemment une série de manœuvres qui se mettent en place pour construire un nouvel espace balisé, contrôlé, etc., dans le contexte d'une technologie communicationnelle et un ensemble d'enjeux communicationnels radicalement nouveaux. En fait, le toutes les batailles auxquelles nous assistons actuellement ne sont rien d'autre, à mon avis, que précisément la course, la lutte entre ces tendances qui sont soit d'exploiter de façon libertaire, soit au contraire de vouloir contrôler ces technologies. Alors, le problème se complique parce que on n'est pas forcément du bon côté parce qu'on est du côté libertaire, et on n'est pas forcément du mauvais côté parce qu'on veut contrôler. Dans la mesure où il y a évidemment dans la production, la circulation et l'organisation des documents, un ensemble de questions qui aussi ont à voir avec le tissu social, l'ordre politique, disons pour notre époque, la démocratie et son maintien ou même son amplification. Je crois qu'elle en a fort besoin entre nous. Et partout d'ailleurs, hein, même au Canada, je ne dis pas ça pour la France seulement, et par ailleurs, il y a des usages de cette zone libertaire. Je n'ai pas besoin de faire une référence très longue à la pédophilie pour, je crois, rendre très très clair le sens de cette remarque qui pourrait apparaître comme une ambiguïté, mais qui en fait me semble correspondre beaucoup plus à une complexité de cette question de la transition. Bon, là-dessus, comment est-ce qu'on peut, disons, nous organiser, comment est-ce qu'on peut penser et avancer dans la création de visions, de modalités d'intervention, de peut-être pour ceux d'entre vous qui sont être beaucoup plus près du niveau légal et de législatif du pays, comment transposer cette espèce de cadre extrêmement général et un peu abstrait que je viens de brosser de manière plus concrète. Il me semble qu'à cet égard-là, la situation doit reposer, je crois, à la fois sur des exemples qui existent déjà et sur une analyse qui également s'élargit un tout petit peu. Ce qui est important dans la question des documents qui seraient sous la forme de biens communs informationnels, c'est de bien voir comment justement ils pourraient se situer à l'intérieur d'une économie d'un pays, mais en prenant ce terme économique justement peut-être un peu plus largement qu'il ne l'est pris normalement. Et je crois que Philippe Aigrin, qui est ici, a écrit des choses importantes sur ce sujet. J'essaye de loin de le suivre et de dire deux, trois choses également dans cette direction. En gros, la question qui se pose actuellement et qui me semble être importante pour la refonte ou la conceptualisation des biens communs informationnels, ce serait de dire est-ce que sans ces biens communs informationnels, une économie au sens classique du terme, purement monétaire, financière et ainsi de suite, est-ce que cette économie peut tenir ? Et les exemples que nous observons de ces biens informationnels, logiciels et tout ce qu'on veut, musique, texte et ainsi de suite, semblent indiquer, dans beaucoup de cas, que pour des raisons soit de mauvaise législation, soit peut-être plus profondément dans la logique même de la façon dont cette économie informationnelle est gérée actuellement, il y a des phénomènes de dérive, de perversion de l'économie au sens traditionnel. Si on prend pour acquis que quelque part une économie de marché ne résout pas tout, mais que par ailleurs elle n'est pas entièrement néfaste, si on prend pour acquis que dans certains cas l'économie de marché, disons, à sa place, je ne sais pas comment cette assemblée ici réagit à une telle proposition, mais ce sera en gros ma position personnelle, que l'économie de marché certainement ne résout pas tout, mais par ailleurs, sans faire comme si ça n'existait pas et essayer de tout régler par un système de planification, je crois, s'est révélé, disons, pour le moins un peu complexe et un peu difficile. Donc dans la mesure où on aurait ce genre de base d'analyse derrière soi, comment est-ce que on pourrait imaginer des biens communs informationnels. Si je retourne, par exemple, pour prendre un exemple concret, si je retourne rapidement sur la question de la publication scientifique qui était si bien partie au XVIIe siècle, qu'est-ce que nous observons actuellement dans l'organisation mondiale de ce marché qui pourtant c'est un gros marché, c'est de l'ordre de 10 à 15 milliards de dollars par an actuellement, mais qu'est-ce que nous observons dans la situation de ce marché? Bien, grosso modo, là où la République des sciences avait créé une sorte d'échange, bien sûr, entre une élite, hein, je ne mets pas de côté le fait que la position des scientifiques pendant très longtemps a été extraordinairement élitiste. Lavoisier n'était pas exactement un homme pauvre, on le sait. Il s'est très bien marié d'ailleurs, hein. Mademoiselle Pauls était extrêmement riche, comme vous le savez. Donc, en dehors de cette considération que nous parlons d'une élite particulière, à l'intérieur de cette élite, il y avait un système de circulation de l'information qui, pourrait-on dire, créait réellement l'analogue d'une sorte de république de l'élite. D'ailleurs, si on parle souvent d'évaluation par les pairs en sciences, c'est que le mot pair lui-même est souvent utilisé dans les élites. Rappelez-vous qu'il y a eu en France des chambres de pairs qui n'étaient pas exactement de simples citoyens, même s'ils s'appelaient égaux entre eux. Ce où je veux en venir, c'est que pendant très très longtemps, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce système de circulation scientifique s'élaborait autour de véhicules imprimés, justement des revues, qui pouvaient bénéficier de prestige et d'autorité diverses, mais il y avait une espèce de continuum qui se maintenait entre les productions scientifiques, disons, les plus médiocres et les meilleures. Il n'y avait pas, si vous voulez, de coupure. Les gens pouvaient, les scientifiques, pouvaient, avec effort et talent, espérer monter dans la hiérarchie de ces publications jusqu'à atteindre les sommets sans avoir à penser à trop d'autres facteurs qui puissent influencer cette progression. Je simplifie encore une fois, mes collègues en histoire des sciences rugiraient s'ils m'entendaient parler actuellement, mais vous suivez en gros la progression de ce que je veux dire. Ce que je veux dire de toutes les façons, c'est que même si c'était pas parfait avant, disons que ça s'est énormément empiré depuis la Seconde Guerre mondiale, et ceci pour des raisons relativement clair. Je ne vais pas refaire tout un historique dont je parle souvent quand je parle de revues scientifiques, mais où, en gros, si vous voulez, à cause d'un système qui s'appelle le Science Citation Index en sciences, il y a eu la création d'un ensemble de revues qui sont du même coup devenues extrêmement prestigieuses, et le reste est resté sur le tas, si on peut dire. C'est un peu comme des actions qui peuvent être cotées en bourse et des actions qui ne sont pas cotées en bourse. Le fait d'entrer en bourse crée une discontinuité entre les deux mondes. Et c'est sur cette discontinuité que je voudrais simplement insister un tout petit peu, parce qu'à partir de ce moment-là, étant donné qu'il y avait cette discontinuité, un certain nombre d'acteurs dans le domaine ont décidé de se focaliser là-dessus. Et en particulier, deux types d'acteurs complètement différents. Les bibliothécaires d'un côté qui se sont dit, bon, il suffit d'acheter au moins ce qui est dans ce groupe-là, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir pour nos chercheurs l'essentiel de la science à son plus haut niveau. Et de l'autre côté, des éditeurs, de grands éditeurs internationaux qui se sont dit, mais puisque tous les bibliothécaires ont l'air de vouloir acheter précisément cet ensemble, ça vaudrait la peine de contrôler cet ensemble, parce qu'à partir de ce moment-là, nous sommes en face d'un marché inélastique de ces revues, et nous pouvons monter le prix tant que nous voulons, parce qu'ils seront obligés de les acheter de toutes les manières. C'est ça la nature d'un marché inélastique, la demande n'est pas trop affectée par la différence de prix. Eh bien, ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est que cette progression des scientifiques à travers la hiérarchie des revues se heurtait à partir de ce moment-là à cette discontinuité qui se trouvait absolument verrouillé par un système économique supplémentaire qui était le prix croissant d'ailleurs de manière vertigineuse de ces revues, au point de finalement limiter la distribution de ces revues à quelques grandes institutions dans quelques grands pays. Ça revenait à ça. Et quand on commence à verrouiller un ensemble limité d'acteurs par une barrière économique, en plus des barrières traditionnelles de compétences et d'intelligence, on se retrouve immédiatement dans non plus une république des sciences, mais une plutocratie scientifique. Et ça, c'est pas très très intéressant. Et le combat pour les biens communs informationnels en sciences, actuellement, réagit précisément à cette situation-là, en essayant justement par la notion de bien commun informationnel de transformer le monde scientifique de manière à la communication scientifique de façon à restaurer, si vous voulez, les éléments essentiels d'une république des sciences. Comment est-ce que ça se fait ? Eh bien, en transformant les modèles économiques sous-jacents et en travaillant sur, évidemment, une dimension qui est essentielle pour tout ça, c'est ouvrir l'accès à ces revues en trouvant une façon de payer pour la publication de ces revues en amont de la distribution, de façon aussi à ce que le coût de ces revues, même en amont, corresponde beaucoup plus au coût réel de production, stockage et diffusion que ce n'est le cas actuellement. Pour ceux d'entre vous, incidemment, qui ne connaissaient pas ce monde des revues savantes du tout, simplement pour vous donner une petite idée de la situation, il existe, c'est la plus chère actuellement, mais ça donne quand même au moins un élément maximal, si vous voulez. La revue la plus chère actuellement s'appelle Brain Research, elle est publiée par Reed Elsevier, donc la compagnie anglo-hollandaise, et elle est actuellement vendue à peu près 18 000 $ par an pour un abonnement. Donc vous voyez le niveau dans lequel on se situe. Les revues scientifiques actuellement couramment coûtent 2 000, 3 000, 4 000 $ par revue par an. Et les bibliothèques des universités, par exemple la mienne, dépensent à peu près l'équivalent de 4 millions d'euros par an en revues savantes, simplement pour alimenter le travail des chercheurs de la bibliothèque. Vous voyez à peu près la situation. Et les augmentations de coûts depuis une trentaine d'années se baladent entre... Récemment, ça a baissé à cause de la pression vers 7-8%, mais jusqu'à récemment, se promenait très régulièrement au-dessus de 10% pour atteindre régulièrement 15-20% certaines années. Donc vous voyez là une situation économique où très rapidement, par exemple, certains pays pauvres qui avaient encore un peu d'accès à la documentation scientifique dans les années 50, pas beaucoup, mais un peu, n'en avaient plus du tout, absolument plus du tout. Et la réponse à ça a été précisément de travailler cette notion de bien commun informationnel qui a été en fait d'ouvrir l'accès à ces documents en, comme je vous le disais tout à l'heure, en trouvant une autre façon de financer en amont la production, circulation et stockage de ces publications. Je trouve que le logiciel libre offre un autre exemple tout à fait analogue de la même situation. Il permet de nous renseigner encore une fois sur la notion de bien commun informationnel. À quoi assistons-nous dans ce cas particulier? Eh bien, nous avons là aussi une forme d'écriture, le code. C'est un peu comme les scientifiques, les informaticiens qui écrivent du code. Ils utilisent une langue qui est un petit peu curieuse, dont la rhétorique et le style est peut-être un peu limité, mais c'est quand même une forme d'écriture. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que, vous le savez, le code informatique est protégé encore par le droit d'auteur ou le copyright selon les régions du monde. Eh bien, cette situation de logiciel libre, à quoi correspond-elle? Elle correspond, je crois, aussi, surtout dans son explosion et dans son déploiement extrêmement intense depuis quelques années, à la prise de conscience que un système monopoliste avec un marché inélastique s'était mis en place et avait complètement perverti une ancienne manière de produire, partager, échanger, acheter même, c'est bien informationnel auparavant. Et la réaction est là encore très intéressante, je l'ai dit d'entrée de jeu en commençant ma présentation aujourd'hui, la réaction n'a pas été de faire un bois commun ou quelque chose comme ça, c'est pas en général dans le domaine public ces logiciels, ce sont des logiciels qui appartiennent à quelqu'un ou à une institution, mais ils sont mis en circulation libre, en accès libre, ils sont mis en réutilisation libre, ils sont mis en situation d'utilisation et d'appropriation libre. C'est ça, l'élément important qu'il faut bien voir dans ces biens communs informationnels. Ils sont en fait plus intéressants peut-être par les possibilités d'appropriation, d'utilisation, de réutilisation, de développement et ainsi de suite, que par une effective propriété, encore qu'il faut que quelqu'un puisse ou une institution puisse les posséder pour les protéger contre une mauvaise appropriation. Par exemple, on voit ces logiciels pris par une compagnie et reverrouillés derrière quelques systèmes qui les rendraient invisibles. Alors revenons à la question que je posais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut créer une économie libre, une économie saine, excusez-moi, dans le contexte d'une bien commun informationnel. Eh bien, ma réaction prendrait pour exemple quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est la réponse à la question comment se fait-il que des compagnies comme IBM, comme Sun, comme Oracle et ainsi de suite, se tournent vers le logiciel libre. Et la réponse que l'on trouve la plupart du temps, et je crois que c'est la bonne réponse, c'est que ces gens-là se sont dit « ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler de façon correcte dans une société même de marché si tout est contrôlé de la base jusqu'au sommet par une compagnie privée ». Imaginez, un petit rêve, une espèce de compagnie qui pourrait avoir un système de train, mais avec les rails qui seraient construits de telle manière que l'écartement pourrait être modifié constamment. Hein, ce serait peut-être pas si difficile d'ailleurs que ça à inventer. Et du même coup, en fonction de la présence des concurrents et ainsi de suite, ou disons la volonté de cette compagnie d'intervenir dans le matériel roulant, en plus de vouloir contrôler les rails, eh bien en jouant sur cet écartement variable, on pourrait littéralement ruiner rapidement ces compagnies, parce que sans prévenir, on pourrait faire venir son propre matériel un petit peu avant le matériel des autres, sur les rails légèrement écartés, pendant que les autres seraient en train de se réadapter. L'histoire de WordPerfect contre Microsoft Word est exactement celle-là. À chaque fois que WordPerfect essayait de s'adapter à une nouvelle version de Windows, hein, ou même de DOS, eh bien, évidemment, à l'interne, les équipes de Microsoft Word avaient reçu déjà toutes les informations et une documentation beaucoup plus complète pour pouvoir présenter un produit qui, évidemment, se révélait plus performant sur cette plateforme verrouillée que les concurrents. Donc, on en déduit que, effectivement, dans n'importe quelle société, il doit y avoir un besoin important de quelque chose en bien commun pour que, en quelque sorte, on puisse dire un jeu égal puisse être construit par-dessus. Ce que les anglophones appelleraient un even playing field, c'est-à-dire une base, un soubassement commun qui permettrait à l'ensemble de cette économie de marché de se situer au bon niveau, c'est-à-dire un certain niveau de spécificité par-dessus cette base commune et qui permettrait à cette économie de se développer d'une manière où les règles de la concurrence, les règles donc de l'économie qui permettent, selon les lois du marché, une meilleure allocation des ressources et évidemment une optimisation des prix par rapport aux coûts de production, pourraient enfin se manifester de manière claire. Car en fait, ce à quoi nous assistons dans la plupart des domaines que nous pouvons observer de nos jours, c'est précisément l'inverse. C'est une tentative non pas de fonctionner bien à l'intérieur d'un marché, c'est une tentative de prendre le contrôle du marché de façon à fonctionner bien, point final. Hein, c'est bien ça, les enjeux d'un Reed Elsevier dans le domaine des publications scientifiques ou d'un Microsoft dans le domaine des logiciels. Alors là, l'idée des biens communs informationnels, c'est inventer justement de manière aussi précise que possible, et surtout dans tous les domaines possibles, cette notion d'un soubassement ouvert, accessible, libre, qui permettrait de créer ce even playing field, ce jeu où tout le monde a des chances égales, et qui permettrait en fait de créer sur des points particuliers qui sont considérés comme étant utiles pour la société, des activités économiques de type marché, et puis à côté, bien entendu, la possibilité de créer des concurrences également libres si les gens veulent construire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant dans le logiciel libre et qui peut-être va se manifester aussi dans d'autres types de documents, pour employer ce mot au sens générique du terme. Dans le logiciel libre, ce qui devient absolument passionnant, c'est que le logiciel libre est en train d'offrir des alternatives, des possibilités parallèles à celles que le monde marchand offre sur, disons, peut-être 60-70% de l'offre commerciale générale. On peut trouver un équivalent libre à énormément de choses, pas tout, mais énormément de choses. Et dans le domaine du livre, dans le domaine des revues, dans le domaine de la musique, du cinéma et ainsi de suite, on n'en est pas là. On est encore dans une situation où tout est encore très bien contrôlé par le domaine de l'édition classique ou des grands éditeurs de disques ou de films. Il me semble voir naître dans le monde de l'Internet et dans le monde de la numérisation les prémices d'une extension de cette logique du logiciel libre. Quand je vois Wikipédia arriver dans l'Internet en langue anglaise, il y a maintenant 170 000 entrées, et ces entrées s'améliorent constamment et se multiplient en même temps, je me dis que, effectivement, le travail de l'encyclopédie, à terme, va probablement complètement basculer dans le monde libre. Lorsque je vois les jeunes artistes décider de ne plus passer par les fourches codines de la hiérarchie des valeurs généralement gérées à travers soit des galeries d'art ou des éditeurs et ainsi de suite, et essayer de prendre en main leur propre destin de producteur culturel, je me dis qu'il y a là quelque chose qui ressemble aussi au logiciel libre. Alors, on va assister, je crois, à une bataille où il va falloir être extrêmement vigilant, parce que les termes vont souvent être mélangés. On va souvent voir, je crois, ceux qui détiennent les produits actuels, les droits actuels et ainsi de suite, essayer de mélanger cette volonté de produire indépendamment et en parallèle des nouveaux types de produits culturels avec, évidemment, les gens qui, entre guillemets, pirate tous les produits déjà en place. On va essayer d'assimiler les deux mouvements, le premier au deuxième, de façon à dévaloriser le premier sous couvert d'une accusation disons d'assaut, d'atteinte aux droits de propriété dans nos sociétés. Et je pense que là, il va falloir être extrêmement vigilant, parce qu'en fait, effectivement, ce monde numérique va ouvrir des possibilités de production et de diffusion de documents d'un type qui ne sont pas encore possibles, beaucoup en tout cas, sur le plan, dans le plan du cinéma classique ou de l'édition classique et ainsi de suite. Et il va falloir donc recréer une sorte, ou en tout cas imaginer une société où il va y avoir des univers concurrents de documents qui ont des fonctions analogues. Pour prendre encore une fois une analogie un peu brutale et un peu probablement même outrée, mais vous me pardonnerez d'avance encore une fois pour les contraintes, c'est, si vous voulez, une sorte de protestantisme généralisé qui va s'établir à côté du catholicisme régnant et qui a permis ensuite la construction de toute une nouvelle zone de documents qui, tout en ayant par exemple une fonction religieuse, se passait selon des normes et des règles et des possibilités très très différentes de celles que l'ancienne Église catholique avait fait, avec des effets évidemment ensuite d'ajustement, de concurrence, d'évolution des deux côtés. On est dans une sorte de dynamique, excusez-moi, systémique. On pourrait presque imaginer une sorte de jeu écologique au niveau de la culture qui pourrait s'établir là. Et je conclurai avec ça, je crois qu'on pourrait peut-être prendre 5-10 minutes de discussion. Je conclurai avec ça en disant, c'est ça, je crois, l'enjeu de la construction des biens communs immatériels dans le texte, la musique et le logiciel. C'est réellement essayer d'imaginer, de créer la vision d'une autre écologie culturelle, où une partie de cette écologie maintiendrait, bien entendu, d'ailleurs on n'a pas les moyens, ni d'ailleurs peut-être même la volonté de vraiment l'écarter, maintiendrait les secteurs marchands actuels, mais à côté de ça, une sorte de pousser une sorte de présence, une sorte d'énergie, de production culturelle se manifesterait sur des registres entièrement libres et accessibles, qui en fait deviendraient du même coup les garants d'une nouvelle qualité générale de tout ce qui est produit, car même le secteur marchand serait à ce moment-là obligé de suivre d'une certaine manière les éléments inventés, les créations d'un type nouveau qui peuvent apparaître dans tout ce nouveau monde technologique, car encore une fois, je termine avec ça, nous sommes en transition et non pas dans un état stable. Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup Jean-Claude pour ce brillant exposé. Donc, maintenant, quelques questions de la salle, un petit débat avec la salle. Je vais demander à chacun de bien vouloir se présenter avant de poser sa question, vu que tout est enregistré, ça nous facilitera le travail. Alors, qui souhaite poser une question à Monsieur Dédon? Bon, je vais... Ah, Loïc.
Concernant l'économie, donc tu nous brosses un vaste tableau d'évolution. Est-ce qu'il y a des économistes aujourd'hui qui sont bien ancrés, des professionnels reconnus, qui essayent de transformer tout ça?
Je laisserai plutôt la parole à Philippe là-dessus, il s'y connaît beaucoup mieux que moi là-dessus, mais peut-être pas des économistes, mais je pense à des gens comme Ben Clare en particulier. Et il y a tout un groupe en particulier de gens dans le droit américain actuellement qui ont sorti des études extrêmement intéressantes d'où l'économie n'est pas absente. Alors, je te recommande de faire une recherche dans Google, tu prends Ben Clare, le nom B-E-N-K-L-E-R, et tu croises ça avec Duke, l'université Duke, et tu vas tomber immédiatement sur une conférence qui a eu lieu en 91, je crois, qui était complètement consacrée à ça, avec tous les grands noms, Pam Samuelson et d'autres gens, Larry Lessig et ainsi de suite, tous les grands noms, de ce mouvement dans le droit américain, mais qui est quand même extrêmement accroché aux réalités de l'économie. Je prends pour exemple le texte qui devrait être traduit rapidement en français, si ce n'est pas encore déjà fait, c'est le texte de Ben Clare sur le Causes Penguin, qui est en fait une analyse dans quelles conditions de la théorie de la firme de cause est-ce que le logiciel libre se révèle en fait économiquement parlant, et même économétriquement parlant, plus efficace que l'organisation classique de la firme telle qu'elle est définie par cause. Mais Philippe, tu pourrais ajouter des choses là-dessus.
Jean-Claude a tout à fait raison de dire que, disons, les juristes, c'est peut-être un terme trop vaste, mais enfin les philosophes du droit ont réagi plus rapidement que les économistes, mais néanmoins maintenant les économistes eux-mêmes ont commencé à réagir. Alors c'est aux États-Unis les précurseurs de ça, ça a été la Berkeley Roundtable on the International Economy, qui sont des gens qui étaient en fait très liés à essayer de comprendre le phénomène de la Silicon Valley et de l'industrie informatique, et qui ont développé des théories économiques qui font une place significative au bien commun informationnel. C'est aussi le cas de nouveaux courants de l'économie de la propriété intellectuelle, qui traditionnellement était une économie de la protection de la propriété intellectuelle, et qui a commencé depuis quelques années à se poser les problèmes d'intérêt général dans le choix des degrés de propriété intellectuelle. Alors ça, aux États-Unis, c'est quelqu'un comme Jim Besson du MIT, mais c'est très présent en Europe avec des gens comme Claude Henry qui a récemment avec Laurence Tubiana et Michel Trometer produit un rapport pour le Conseil d'analyse économique sur la propriété intellectuelle. Et par exemple, il y a des signes comme le fait que l'International School on Economic Research, qui est un séminaire de l'université de Sienne, qui est un peu le Gotha de la réflexion intellectuelle économiste, en juillet 2004 va traiter des sujets de l'économie de la propriété intellectuelle en invitant essentiellement les activistes des biens communs. Ils invitent Boyle de Duke, ils invitent Rebecca Eisenberg de Chicago, qui est grande activiste sur les biens communs en biologie, et un certain nombre d'autres acteurs. Mais ça reste un courant minoritaire au sein de l'économie, il faut le reconnaître.
Très bien, merci Jean-Claude, merci Philippe. Une autre question ?
Oui. Bonjour Patrick Altman, bonjour Jean-Claude. Si on parle aussi facilement de la production scientifique comme justement bien commun informationnel archétypal, on le sait bien, c'est que les scientifiques sont déjà payés avant de publier. Et la question de fond qui reste, c'est comment on fait pour payer les autres producteurs d'autres types de biens qui pourraient devenir des biens communs informationnels. Et là-dessus, on n'a pas de réponse, pour l'instant, économiquement. La question de fond, c'est... ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle pour payer des producteurs de biens sur le type des productions scientifiques. Ou alors, il faut faire une sérieuse révolution intellectuelle. Moi, j'ai une proposition. C'est considérer la production intellectuelle au même niveau que ce qu'on considère en production artistique. C'est-à-dire au lieu d'essayer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on fait payer des fichiers en téléchargement de musique, par exemple, vouloir faire payer à chaque visionnage ou à chaque audition ou à chaque lecture un document, considérer que ce qui est important, c'est l'acte de création, comme on le fait pour une sculpture et une statue, et que derrière l'ensemble des milliers d'avatars électroniques qu'on pourra produire à partir de ce fichier, n'ont pas de valeur économique. Et économiquement, ils n'ont pas de valeur, puisqu'ils se produisent à coût zéro, ils se diffusent à coût zéro. Et aujourd'hui, on ne sait pas mesurer économiquement la valeur d'un fichier. Donc, si on reprend le modèle de l'art, et comme un artiste vend une toile ou une sculpture et qu'on met n'importe où, on ne mesure pas, on ne va pas rémunérer l'artiste aujourd'hui au nombre de paires d'yeux qui vont se poser sur une œuvre. Si on met la statue du général de Gaulle aux Champs-Élysées, il y a des millions de gens qui passent devant. L'artiste, une fois qu'il a vendu sa sculpture, il ne touche pas un sou de plus sur les gens qui vont le voir. Sur les produits dérivés, cartes postales, etc., c'est différent. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer le même type de production, le même type de fonctionnement pour une production intellectuelle qui soit numérique et trouver un moyen, alors là il faut trouver un moyen, mais on paye une fois, de rémunération de l'auteur pour la divulgation au monde de sa production.
En fait, c'est une adaptation du copyright tel qu'il avait été conçu à l'origine, en particulier dans la première version de la République américaine. Il y avait une espèce de petit monopole temporaire de l'auteur pour lui permettre de se rémunérer par rapport à son innovation, mais le calcul américain du copyright aux origines était un calcul qui disait on donne un petit peu de propriété pour en fait stimuler l'innovation qui va aller nourrir le bien commun. Hein, c'était la structure de base. Donc essayer d'aménager cette structure-là me semblerait a priori une piste intéressante de recherche. C'est le problème qui s'est posé avec le droit d'auteur et le copyright, surtout dans la question du copyright, c'est qu'évidemment la stimulation de l'innovation par le monopole temporaire sur la création n'a plus aucun sens quand on étend ça à 70 ans au-delà de la mort de l'auteur. On se demande comment ça va stimuler sa créativité une fois qu'il est 6 pieds sous terre. Alors, donc il y a des non-sens maintenant qu'il faudrait remettre en évidence et qui permettraient déjà de corriger certains trucs. Mais je crois que plus fondamentalement, la question est quand même pas aussi simple et aussi tranchée que tu le présentais tout à l'heure. Par exemple, qui rémunère les gens du logiciel libre? Dans certains cas, ce sont justement des compagnies qui le font. Il y a énormément de gens chez IBM qui travaillent aux frais d'IBM pour faire du logiciel libre. Pourquoi est-ce qu'IBM fait ça? Parce que pour IBM, c'est la seule stratégie qu'ils puissent imaginer actuellement pour vraiment ne pas se laisser complètement enfoncer par Microsoft sur certains créneaux. Et en stimulant la production de ce fondement, de cette soubassement dont je parlais tout à l'heure, on garantit la possibilité d'une existence économique réelle par-dessus cette fondation. Donc on contribue à la fondation pour simplement garantir sa propre possibilité de vivre économiquement et du même coup, on trouve déjà là un modèle qui me semble intéressant. Mais il peut y avoir plusieurs modèles concurrents, parallèles et ainsi de suite. Et je crois que c'est une des grandes pistes de travail à développer, c'est précisément comment assurer cette production continue de nouveautés dans le domaine culturel par des gens qui ont besoin effectivement de vivre, de maintenir le corps et l'âme ensemble, comme on dit en anglais, et de d'avoir envie de faire ça. Il me semble que le modèle du professeur dans les universités, qui en plus est censé être un chercheur, est un modèle qui lui aussi peut être exploré et peut-être s'ouvre à une certaine généralisation. Et donc on a déjà deux modèles maintenant, l'université et certaines compagnies, et ainsi de suite. Enfin, je n'ai pas une réponse complète à ça, mais je pense qu'il y a une série de recherches à mener sur des pistes extrêmement précises dans ce genre de direction-là, précisément pour voir comment étendre le modèle scientifique, si on le prend comme de la production scientifique, si on le prend comme modèle canonique de base.
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion de plusieurs modèles. C'est peut-être plusieurs modalités de financement Mais le modèle reste, mais le modèle reste quand même toujours le même, à savoir qu'on paye une fois. C'est-à-dire que si IBM paye des équipes pour faire du logiciel libre, ces équipes elles-mêmes ne sont pas rémunérées en fonction du nombre de, ensuite, de gens qui vont réutiliser ces logiciels.
Absolument.
Donc la question de fond reste finalement, on est sur les mêmes.
Oui, oui, tout à fait. Non, j'accepte la correction, elle est juste.
Et juste une précision, c'est que ce dont je parle ne fonctionne bien entendu que pour l'économie électronique et numérique, ce qui n'empêche pas par ailleurs, lorsqu'on passe sur des supports matériels, de retrouver des économies classiques. Un auteur qui publie une œuvre numérique peut ensuite tout à fait être rémunéré classiquement si c'est du texte que ce texte se retrouve dans des bouquins, des petits livres, des gros livres,
sur
des supports de bocs à café, etc.
Tout à fait. Il y a même d'ailleurs des modes d'articulation entre le matériel et l'immatériel qu'il va falloir en fait penser et développer et étudier et qui ne commencent qu'à peine à poindre. Enfin, j'imagine très bien une situation, même dans le domaine non pas scientifique mais de l'édition en général, de livres publiés et en accès libre en numérique, mais publié traditionnellement en papier, sachant que si le numérique est libre, les gens auront envie d'aller acquérir le papier parce que c'est plus pratique, c'est plus facile et ça permet un certain type d'utilisation de ce document que le numérique ne remplit pas aussi bien, ou alors il faut passer par l'imprimerie de toute façon.
Très bien. Oui. J'aurais pour ma part envie d'ajouter à cette question de Patrick Altman une autre question qui me paraît devoir être traitée en parallèle si on veut aborder ce problème, c'est de mesurer également quel serait le coût de ne pas étendre ce mode de fonctionnement, de ne pas réfléchir en termes de commun. Et c'est là qu'on voit des raisonnements comme celui de Yochai Benkler qui montrent que l'absence de commun, l'érosion des biens communs nuit aux biens communs en premier lieu, mais nuit également à ceux qui font du propriétaire, qui ont également beaucoup de soucis à se régénérer et à travailler. Mais bon, c'est un vaste débat et on va passer à la question suivante de monsieur.
Alors, Laurent Gerby, donc, membre d'association défendant le logiciel libre, et je travaille à BNP Paribas dans une salle des marchés. J'ai une question et une remarque. Ma question est sur la bataille au niveau de la publication scientifique. Comment vous voyez les prochaines étapes? Donc, il y a un journal en biologie qui est paru récemment. Et quelles sont pour vous les choses à surveiller dans les médias? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Et ensuite, une remarque sur le débat précédent. On voit le logiciel souvent comme une production, par analogie à des productions physiques, donc une boîte ou éventuellement une œuvre d'art, dans lesquelles il n'y a pas d'évolution après la création. Or, dans le marché du logiciel, il y a une fonction économique très très importante, qui est la fonction du support. Et par exemple, dans la compagnie dans laquelle je travaille, nous payons une société de logiciels libres parisienne, une petite PME, quelques dizaines de milliers d'euros par an pour nous assurer le support technique d'un des logiciels que nous utilisons. Nous n'achetons pas le logiciel, nous achetons uniquement le support, et ça pour toute la durée de vie de notre projet, qui est une durée de vie longue, et le projet est critique pour notre compagnie. Voilà.
Oui, merci pour la remarque. C'est exactement le type d'exemple où, disons, avec un soubassement ouvert et libre, on peut créer une économie par-dessus qui se branche et en fait capte ce qui est possible dans ce domaine.
Un petit point aussi, c'est sur le domaine du support du logiciel libre, il y a évidemment une concurrence, ce qui n'est pas le cas du tout de l'achat d'un logiciel propriétaire.
Oui, bien sûr. Et là encore, ça rejoint une remarque que j'essayais de faire dans ma présentation, qui est que si on veut un vrai marché qui fonctionne comme un marché censé marcher dans le, si je puis dire ça comme ça, dans le cadre de l'économie classique, c'est précisément la chose. Maintenant, pour les publications scientifiques, puisque vous m'invitez à commenter là-dessus, merci incidemment, c'est vraiment mon terrain d'action. C'est pour ça que je dois partir ce soir, très bonne heure d'ailleurs, pour aller à une réunion demain. Loin d'ici. Et vous avez mentionné le Public Library of Science Biology, qui est une des deux revues que Michael Eisen et d'autres, Harold Varmus et autres, ont lancé récemment. Donc le modèle, rapidement, pour le rappeler à ceux qui ne le connaissent pas, c'est une revue où c'est au moment de la publication, c'est une fois que l'article a été évalué et accepté, que une somme d'argent doit intervenir pour permettre la publication réellement, le stockage publication de cet article. Et évidemment, on s'attend pas à ce que ce soit le scientifique lui-même qui le paye de sa poche personnelle, mais des sommes d'argent deviennent disponibles par différents vecteurs. Alors là, actuellement, on assiste à une série d'expérimentations qui sont soit ce sont des organismes subventionnaires qui commencent à intégrer ce genre de sommes dans leur mode d'appui à la recherche scientifique. La réunion de Berlin en octobre dernier, à la Max Planck Gesellschaft était exactement là-dessus. Il y a des bibliothèques qui payent ces frais parce qu'ils se disent, après tout, on va économiser de l'argent sur les revues si ce modèle se développe, donc autant déjà intervenir économiquement là-dedans pour faciliter la transition. Et des institutions plus générales comme par exemple l'INSERM en France qui offre pour tous ses chercheurs un abonnement gratuit à la publication dans un autre organisme du même genre qui s'appelle Biomed Central et qui travaille selon des lignes assez analogues. La question qui va se poser est une question, alors elle est intéressante également pour l'extension des biens communs. Elle est intéressante en particulier pour des domaines comme le cinéma, la musique, l'art en général, tous les biens culturels. C'est en fait, quelque part, c'est la question de qu'est-ce qui va contrôler la détermination de la valeur culturelle, symbolique ou professionnelle de ces documents. Actuellement, si vous êtes chez Reed Elsevier et vous possédez toutes ces revues très prestigieuses comme Cell, par exemple, pour la biologie, c'est clair que vous êtes en train d'avoir une mainmise extrêmement importante, insidieuse d'ailleurs, sur le fonctionnement même de la science, puisque vous possédez l'instrument de valorisation d'un certain nombre de scientifiques qui publient là-dedans. Vous allez me dire, oui, mais la valorisation n'est pas donnée par Elsevier, elle est donnée par des scientifiques qui deviennent éditeurs en chef et tout ça, sauf que lorsque Reed Elsevier crée une revue scientifique, il la dote d'un comité éditorial qui existe parce que l'on offre à des gens un soutien financier qui leur permet de jouer ce rôle-là. J'appelle ça souvent la super promotion universitaire, la finale, la plus belle. On est le super gatekeeper, comme on dirait en anglais. Hein. On est le gardien de porte vraiment du sommet. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que la plus grande promotion universitaire disponible à n'importe quel universitaire sur le plan international n'est plus contrôlée par l'université, mais par des ensembles commerciaux. Donc la bataille qui va s'engager va être une bataille extrêmement passionnante et difficile en même temps, qui est de reconstituer, je dirais, le marché des valeurs symboliques dans le domaine scientifique et dans tous les autres domaines auxquels on a fait allusion jusqu'ici, de façon à pouvoir au moins offrir une concurrence à cet établissement de valeurs tel qu'il est actuellement monopolisé par les grands ensembles financiers qui contrôlent les revues, les livres et ainsi de suite. Alors c'est là, je pense, que la bataille va se jouer dans les 5 années à venir. C'est est-ce qu'on va réussir à recréer des systèmes meilleurs? Et une note d'espoir, je terminerai là-dessus, c'est que le directeur actuel du Wellcome Trust à Londres, qui dépense quand même $1 milliard par an en recherche scientifique au titre de la fondation privée qu'il dirige, a déclaré récemment que l'évaluation des demandes de subventions dans leur institution allait passer non plus par simplement le facteur d'impact de la revue dans laquelle l'article apparaît, mais par la qualité intrinsèque de l'article lui-même. Donc vous pouvez sortir ça dans le journal de la Croatie du Sud, mais si c'est simplement un article, je ne sais pas si la Croatie du Sud est un mauvais endroit pour publier, mais enfin je dis ça un peu au hasard, mais si votre article se révèle être à la lecture un article d'un individu nobélisable, ça n'a plus d'importance. C'est la qualité de l'article qui va jouer et non plus l'endroit où l'article a pu être accepté. Et du même coup, des plutocraties extrêmement occultes et extrêmement insidieuses de laboratoires et de grands éditeurs vont commencer à se dissoudre, je crois, devant ces nouvelles pratiques des organismes subventionnaires, si elles se généralisent. Mon pari, c'est que ça va se généraliser.